Les archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Quand il fait très chaud, trop chaud, on peut légitimement s'interroger sur l'avenir de notre terroir soumis à de fortes températures de plus en plus fréquemment. La chaleur permanente pourrait à terme entraîner une sécheresse chronique et rendre la vie difficile, voire impossible. C'est loin d'être le cas dans nos contrées d'Europe, mais c'est une réalité sur d'autres zones de la planète. Le Sahel, par exemple, ou certaines régions du Moyen-Orient. Notre archive d'aujourd'hui se penche sur ces parties du monde. Réalisée il y a 25 ans, la situation était préoccupante. Les fortes températures avaient raison de la végétation et les solutions que la science pouvait apporter manquaient de financement. Avec pour conséquence une dégradation globale de la situation, comme nous le verrons tout à l'heure. Pour l'instant, retrouvons l'équipe de Fréquence Terre qui produit en novembre 2001 ce reportage pour Radio France Internationale et rendez-vous dans 20 minutes pour voir comment la situation a évolué.
Fréquence Terre.
Arnaud Jouve.
Bienvenue sur votre magazine de l'environnement, aujourd'hui consacré à la lutte contre la sécheresse. Qui est indispensable à la vie, est abondante sur la Terre, mais pas partout. Elle est même extrêmement mal répartie. La plus grande partie de cette eau douce, vitale pour l'humanité, se trouve principalement stockée dans les pôles et dans les grandes nappes souterraines, qui ne correspondent pas forcément aux régions du monde qui en ont aujourd'hui le plus grand besoin. La dégradation rapide de notre planète et l'évolution des sociétés humaines ont mis en évidence de manière de plus en plus dramatique les extrêmes difficultés auxquelles doivent faire face certains pays confrontés à un manque d'eau chronique. Pierre Rognon, qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie, a consacré plus de 40 ans de sa vie à l'étude des déserts qu'il connaît bien. Pour entrer dans ce dossier, écoutons tout d'abord son commentaire sur le phénomène de la désertification et sur ces mécanismes qui affectent de manière croissante une grande partie de notre planète et qui constituent l'un des principaux enjeux que devra résoudre le XXIe siècle.
La désertification, c'est le passage de régions qui ne sont pas normalement des déserts à des paysages qui sont désertiques, soit par la disparition de la végétation sous l'effet de l'homme, soit la disparition des sols par l'érosion, soit l'extension de dunes, soit la salinisation. C'est-à-dire qu'on passe à des paysages désertiques, plus ou moins vite, plus ou moins progressivement, selon les régions. Les régions les plus touchées, c'est effectivement la bordure nord et sud du Sahara et le Moyen-Orient. Là, nous avons toutes les conditions rassemblées pour accroître sans cesse la désertification. D'une part, ce sont des régions où il y a de grandes sécheresses. Il y a eu la longue sécheresse du Sahel qui a duré une vingtaine d'années dans les années 68 à 88. Puis, des sécheresses sont apparues plus fréquentes qu'avant dans le Maghreb et actuellement, des grandes sécheresses se développent au Moyen-Orient. Or, nous savons, d'après les prévisions des météorologues, que dans le siècle où nous entrons, il va y avoir des sécheresses plus prolongées, plus fréquentes, et particulièrement sur la bordure nord du Sahara et le Moyen-Orient, c'est-à-dire, d'une façon générale, les régions qui sont un peu au nord des tropiques. Dans ces régions, donc, il va y avoir des menaces de sécheresse considérables. La sécheresse fragilise ces milieux qui sont déjà extrêmement pauvres et difficiles à exploiter. Or, à la sécheresse s'ajoute une croissance démographique qui est pratiquement la plus forte du monde. Au sud de la Méditerranée, nous avions vers les années 50 environ 75 millions d'habitants et on pense que vers 2050, il y en aura 400 000, c'est-à-dire beaucoup plus qu'au nord de la Méditerranée. Cette population global va obliger à accroître très rapidement les ressources pour nourrir tous ces habitants et donc on va prélever davantage sur le milieu naturel. Et puis, plus encore que la population globale, c'est la population urbaine qui pose des problèmes. Car dans ces régions se développent des villes très rapidement qui atteignent, comme Casablanca ou Alger, près de 3 millions d'habitants. Le Caire, 14 millions, Téhéran, 14 millions. Ce sont des villes énormes qui se développent et on estime qu'au sud et à l'est de la Méditerranée, c'est 4 millions de citadins supplémentaires chaque année. C'est-à-dire que ça pose à la fois des problèmes de chômage, mais aussi des problèmes de ressources en eau. Parce que ces villes, en se développant, attirent vers elles toutes les ressources en eau du voisinage. Des villes comme Alger, Oran, Casablanca ont depuis longtemps déjà attiré l'eau des barrages voisins, des nappes souterraines, et on ne voit pas quand on pourra arrêter cette croissance. D'autre part, elles jouent aussi sur les sols. Par exemple, Alger s'étend sur la plus belle plaine, la Mitidja, qui est aujourd'hui en grande partie urbanisée. Le Caire s'étend aussi sur le delta du Nil et on dit que la plus rapide érosion des sols en Égypte, c'est l'installation des citadins dans la vallée du Nil. Donc il y a un grave problème qui est posé par cette augmentation de population qui va nécessiter des ressources supplémentaires et la population urbaine, elle nécessite de l'eau potable tous les jours et une eau qui soit suffisamment filtrée pour être consommée par les gens. Donc ça pose d'énormes problèmes et qui vont accroître très rapidement la désertification. Si nous passons au sud du Sahara, au Sahel, eh bien là, l'augmentation de population commence seulement avec environ une trentaine d'années de retard sur le nord du Sahara et le Moyen-Orient. Cette population va donc s'accroître pendant une grande partie du XXIe siècle. Et comme les ressources au Sahel sont encore moins importantes que dans les pays méditerranéens, il y a déjà une émigration importante vers l'Europe de gens qui sont dans ces régions extrêmement pauvres en ressources et où la croissance démographique va être de plus en plus importante jusqu'au moins au milieu du siècle où nous sommes.
Pour illustrer ce regard sur la situation au sud du Sahara, écoutons des Sahéliens sur la perception qu'ils ont de l'évolution de leur environnement. Premier témoignage de Moussa Maïga, un paysan originaire de la région de Gao au nord Mali.
Il y a quelques années de cela, avant les années 73-74, bon, il suffit de partir à quelques kilomètres autour du village donc pour s'approvisionner en bois de chauffe. Aujourd'hui, il faut faire des kilomètres, aller à 10-15 kilomètres pour avoir le bois de chauffe. Et la végétation est très, très clairsemée. Les végétaux supérieurs, les grands arbres, vraiment, on peut les compter, quoi. Ils se font très, très rares. Alors qu'il y a seulement quelques années, bon, souvent on se perd dans certaines parties tellement que la végétation était dense. Donc l'environnement se dégrade vraiment d'année en année. Et malheureusement, le désert avance.
Est-ce que l'arrivée du désert est quelque chose qui inquiète vraiment profondément les populations dans la région ?
Bon, disons que nous ne sommes pas encore dans le désert, nous sommes toujours au Sahel, mais il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Les signes sont là. On sent qu'il y a des vents très violents, des vents de poussière, les précipitations qui deviennent de moins en moins importantes, donc qui sont mal réparties dans le temps. Donc tout ça, ça fait un signal et on sait que bon, peut-être dans des années 20, 30, 40 ans, peut-être que les gens ne vont plus vivre comme on le fait aujourd'hui. C'est vrai que ça inquiète beaucoup les gens parce que c'est une zone agro-pastorale et les gens ils s'occupent d'agriculture et d'élevage qui sont très, très liés à la pluviométrie. Donc pour les pâturages et aussi même les cultures céréalières sont liées à ça. Donc on se pose des questions, les gens se disent, est-ce que nous allons vivre comme nous le faisons maintenant ? Les interrogations sont là, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour l'instant.
Monsieur Kanouté, du ministère de l'Environnement du Mali, est en charge des programmes de lutte contre la désertification. Son témoignage croise celui de Moussa Maïga et confirme les observations de l'homme de terrain.
C'est tellement exact que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un dans ce pays qui ne puisse pas confirmer une telle affirmation. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis d'un village aussi. Et comme ce paysan, moi aussi, Je ne reconnais plus mon village. Parce que quand j'étais jeune, hier seulement, j'étais en train de discuter de cela avec des gens. Quand j'étais jeune, il y avait des forêts dans lesquelles, pour rien au monde, tu ne pouvais pénétrer. Parce que tu avais peur. Quand tu rentrais, tu savais que là-dedans, quelque chose pouvait t'arriver. Mais aujourd'hui, tout cet espace est complètement ouvert. Et donc, on ne reconnaît plus son paysage. Parce que les arbres qui sont là ont disparu. Les mares qui étaient là ont disparu. Les ruisseaux qui étaient là ont disparu. Il n'y a plus de repères. Donc, finalement, comme ce paysan, les gens d'un certain âge, 40 ans, 50 ans, de ce pays-là, qui ont vécu dans la campagne, quand ils retournent chez eux aujourd'hui, ils deviennent comme des étrangers. Et c'est pénible parce que c'est tout un souvenir, c'est toute une culture qui disparaît.
Pierre Rognon.
Pour lutter contre ces problèmes de désertification et de pénurie en eau, il y a depuis longtemps des initiatives qui ont été prises, en particulier au niveau du développement, au niveau des différents pays, mais aussi au niveau international. Il y a eu, à la suite de la conférence de Rio sur le sommet de la Terre, la convention sur la désertification qui avait pour but justement d'aider à résoudre ces problèmes. Cette convention s'est tout de suite tournée vers les problèmes de développement plutôt que de recherche, contrairement aux deux autres conventions. Sur ces problèmes de développement, elle a repris des idées qui étaient antérieures à la conférence de Rio au moment de la grande sécheresse du Sahel, c'est-à-dire demander aux pays de faire des plans de développement. Et puis le but était de subventionner ces plans de développement par l'aide internationale. Mais le problème, c'est qu'on ne trouve plus l'argent pour les financer. C'est-à-dire qu'on va, et l'année prochaine, nous serons à Rio plus 10, c'est-à-dire le moment des bilans, eh bien, on n'a pratiquement pas, pour l'instant, réussi à faire développer ces financements. Donc, cette convention est un peu dans l'impasse parce qu'elle a choisi la voie du développement. Or, je pense qu'il y a une autre voie qui serait non pas de faire du développement, car il y a eu tellement d'échecs ces dernières années dans ce domaine à vouloir aider tel ou tel pays. Je pense qu'il y a une politique plus générale qui consisterait à favoriser, à développer l'innovation scientifique. En effet, cette convention a toujours, pour des raisons politiques, favorisé les savoir-faire traditionnels. Mais un savoir-faire traditionnel, c'est quelque chose qui est né dans une écologie bien particulière et qui est difficile à étendre. Au contraire, si on fait de l'innovation scientifique sérieuse, c'est-à-dire qui soit disponible pour tous les pays, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, avec des sommes moindres, on pourra permettre de diffuser des techniques plus efficaces. Et je crois qu'actuellement, on est dans une phase de crise, comme je l'indiquais au début, en particulier pour les pénuries en eau, mais pas seulement. Et il faut des solutions rapides et efficaces que ne peut apporter que l'innovation scientifique. Répondre à ces pénuries en eau, les solutions qui sont proposées par les organismes officiels comme la Banque mondiale, le FMI et d'autres, c'est avant tout d'économiser l'eau parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pertes en eau sur les canalisations urbaines ou les canalisations agricoles, ou bien de trouver de nouvelles ressources par la désalinisation de l'eau de mer, mais ça coûte très cher, ou bien encore trouver des ressources par l'épuration des eaux urbaines. Or, aucun des pays dont je vous parle n'est équipé pour recueillir les eaux usées. Donc, je pense qu'il faut trouver des nouvelles solutions. Parmi ces nouvelles solutions pour économiser l'eau, eh bien, on peut laisser aux pays tout de même le soin de réparer ou d'améliorer leur canalisation. Par contre, il y a une chose qui est très importante, importante, c'est les pertes en eau qui se développent sur les barrages. Car les grands barrages, comme par exemple le barrage Nasser en Égypte, consomment énormément d'eau qui est perdue par évaporation. On pense que c'est un dixième du débit du Nil qui est perdu dans l'évaporation sur ce lac, mais c'est la même chose dans les lacs du sud du Maghreb, on perd aussi 20 à 25% de l'eau. Sur les lacs collinaires qu'on développe énormément aujourd'hui, on perd aussi une grande partie de l'eau économisée. Donc, il y a eu, dans les années 50 à 65, des initiatives américaines et australiennes pour utiliser un surfactant, c'est-à-dire un produit qui s'étale à la surface de la nappe d'eau et qui isole l'eau de l'atmosphère. Évidemment que ces surfactants sont extrêmement complexes et il a fallu faire beaucoup d'expérimentations. Mais quand on a voulu passer en réelle grandeur, c'est-à-dire sur des lacs de barrage, on s'est aperçu que ces surfactants naturels ne résistaient pas, ni aux vagues, ni à la déchirure par le vent. Alors on a abandonné. Et puis depuis quelques années, on a trouvé de nouveaux surfactants, des molécules beaucoup plus solides, réticulées, avec des liaisons chimiques plus fortes. Et on peut aujourd'hui relancer cette idée et espérer un jour mettre fin à cette évaporation qui est un des grands problèmes d'économie d'eau au niveau de ces pays. L'autre problème, celui de la recherche de nouvelles ressources en eau, est plus complexe parce que, comme je l'ai dit, les solutions proposées sont inadaptables à ces pays. Or, il y avait dans les années 1950 à 1960 des essais qui ont été faits pour augmenter la quantité de pluie fournie par les nuages. Cette méthode a été utilisée, mais elle a donné des résultats très négatifs. En particulier, elle a provoqué des crues, mais surtout, elle a souvent provoqué la grêle, puisque en créant des noyaux de glace, on entraînait autant la grêle que la pluie. Or, depuis quelques années, une autre méthode est mise au point, en particulier en Afrique du Sud et au Mexique, pratiquement sans aide internationale. Et ces méthodes consistent à utiliser des molécules hygroscopiques, c'est-à-dire des molécules de type des sels, qui se chargent en vapeur d'eau lorsqu'elles montent à l'intérieur des nuages et qui retombent sous forme de pluie. C'est le mécanisme des nuages tièdes, des nuages qu'on trouve en zone tropicale sèche précisément. Donc ces molécules sont utilisables maintenant et des essais ont été faits qui montrent qu'elles prolongent la durée de la pluie et qu'elles pourraient augmenter le volume total de la pluie tombée. Parallèlement, on a aussi accru les techniques de radar météorologique. On a des torches pyrotechniques qui permettent d'avoir exactement la taille des molécules nécessaires pour ces condensations. On a des modélisations, c'est-à-dire que tous ces progrès font qu'on pourrait reprendre tout à fait normalement cette technique. Ça a été demandé dans la Convention sur la désertification. La seule proposition scientifique qui a été faite, c'est justement d'augmenter la pluie provoquée. Et puis on a oublié. Plus personne n'en parle. Il aurait dû y avoir une incitation à l'OMM, l'organisme qui s'occupe de la météorologie à l'échelle mondiale. Il n'y a rien eu. Et donc ce sont des pays comme l'Afrique du Sud ou le Mexique qui, sans aide importante de la communauté internationale, ont relancé. Et aujourd'hui, ces méthodes seraient faciles à mettre au point définitivement et on pourrait les proposer pour augmenter les ressources en eau dans les pays dont je vous parlais tout à l'heure où les pénuries en eau seront extrêmement graves dans les années qui viennent. Et puis, il y a aussi un troisième point, c'est le plus important, c'est qu'il y a des progrès techniques qui pourraient être faits spécialement pour les pays du Sud, comme par exemple les problèmes d'ensablement, les problèmes d'hydrorétenteurs fertilisants, les problèmes de transport des eaux. Tous ces problèmes-là n'intéressent pas les pays du Nord et c'est pourquoi il sera très difficile de les financer. Mais c'est ceux qui sont les plus importants puisqu'ils sont spécifiques aux régions du Sud. Thank you.
aurions pu évoquer bien d'autres exemples d'innovation qui ont fait leurs preuves, comme le travail remarquable fait actuellement en Mauritanie par une petite ONG qui a mis au point une technique efficace pour arrêter les dunes, en utilisant des matériaux locaux pour un coût tout à fait supportable. Pierre Rognon, pour conclure, nous rappelle que des solutions existent et qu'elles sont viables.
En fait, il existe des tas d'autres initiatives qui pourraient être prises dans différents domaines de la science, parce que la science fait d'énormes progrès, et il faudrait que toutes ces possibilités soient exploitées au niveau de la lutte contre la désertification et la pénurie en eau. Or, qu'est-ce que l'on constate ? On constate que nous arrivons l'année prochaine à Rio plus 10, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un bilan tout de même de ce qui a été fait dans ce domaine. Or, il y a un échec, je crois qu'on peut employer le mot, puisque au bout de ces 10 ans, on n'aura pas pu financer véritablement de plan de développement. Au contraire, si on mettait l'argent sur le développement d'innovations scientifiques actuelles, eh bien, avec moins d'argent, on arriverait à proposer des solutions efficaces, car il faut des solutions extrêmement efficaces pour résoudre les problèmes que nous évoquions au début. Et avec moins d'argent, avec des financements qui seraient surtout de scientifiques à la fois du Nord et du Sud, bien sûr, il faudrait que ces financements permettent de proposer des solutions. Et puis, c'est aux États ensuite de les diffuser, car il faut aussi admettre que les États ont leurs responsabilités dans ce domaine. Personnellement, j'ai pendant longtemps été un chaud partisan de cette convention sur la désertification qui me paraissait une solution pour résoudre tous ces problèmes. Mais peu à peu, elle a fait preuve de son inefficacité et maintenant que nous arrivons au moment des bilans, je crois qu'il faut changer complètement de politique. Il ne faut plus essayer de faire des plans de développement qui coûteraient extrêmement cher et au contraire, essayer de réfléchir à des solutions innovantes dans lesquelles la science aurait sa part. Car je pense qu'avec le recul, on nous a toujours dit qu'il n'y avait pas de solution nouvelle. Avec des groupes de collègues, nous avons fait des réflexions sur ces différents projets dont j'ai parlé et bien d'autres. Et nous sommes certains aujourd'hui qu'il y a des solutions. Et je reste optimiste parce que, justement, toutes ces solutions dont nous avons parlé, si on change de politique à Rio plus 10, pourraient se développer dans les décennies qui viennent. Et ce serait un moyen de résoudre ces graves problèmes qui vont se poser pendant tout le 21e siècle aux différents pays des zones tropicales et subtropicales qui sont menacés par la désertification.
Sur cette musique de Rabia Bouhalil se termine votre magazine de l'environnement, mixé cette semaine par Assia Ralid, réalisé par Fadi Matar, sur une proposition d'Arnaud Jouve. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage réalisé en novembre 2001. Et il faut admettre que la situation s'est globalement aggravée, car le Maghreb et le Moyen-Orient ont connu un basculement vers les conditions plus sèches au tournant du 21e siècle. Moins de pluie donc et peu d'initiatives, peu de financement pour combattre le phénomène, comme le disait déjà le scientifique de notre reportage. À cette difficulté s'en est ajoutée une autre, le réchauffement climatique, car l'augmentation des températures accroît l'évaporation des sols, des retenues d'eau, de la végétation. La température de l'air est devenue un facteur crucial et dans ces régions, les températures montent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Mais l'évolution n'est pas uniforme. Certaines années ont été particulièrement humides. Certaines régions, montagneuses ou côtières, sont relativement épargnées. Mais la tendance dominante, c'est un assèchement climatique global lié à la combinaison du réchauffement climatique, de l'évaporation et de la pression humaine sur les ressources en eau. Le bilan d'aujourd'hui est similaire à celui des années 2000. Les institutions mondiales tentent de limiter les dégâts, mais leur effort n'arrive pas à surmonter les problèmes. Là-bas, comme chez nous, il va falloir que les populations s'adaptent aux conditions de vie que le réchauffement impose. Voilà, fin de l'émission d'aujourd'hui que vous venez d'écouter en direct sur 98.1 à Nantes, 91 à Saint-Nazaire ou en podcast sur le site alternantefm.fr. On change de continent pour la chanson du jour, mais on reste dans des zones désertiques, en Australie précisément, en compagnie d'un chanteur aborigène qui a créé un morceau qui va bien au thème de la sécheresse. Ça s'appelle « Unfallen Rain », une pluie qui ne tombe pas. Le chanteur, retenez son nom, Tommy Lewis. This land is true. À bientôt sur les ondes alternantes. With skylines and plowed earth, people talking in their dry conscience, unfallen rain still hanging in the air, unchained since the 1800s. While your fathers plowed this land and your mother couldn't breastfeed you, unfallen rain still hanging in the air. Now that you've all grown up, hear changing colors in your eyes that turn you away from the one that fed you. She reached out her arms for you. As easy as she reached out her arms for you. We're still bowing to the Queen of England. What about those last Tasmanians? How Tregony got discarded. Still the wild swans keep calling out her name.
As easy as you reached out her arms.